Alors, la paracha, elle commence curieusement par un ordre qui est donné à Moshe Rabbeinu de, à son tour, d'ordonner à Aaron d'allumer la menorah. Bon. Et ensuite, on dit que Aaron a fait cela, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Il a fait monter la flamme. Il y a une halakha qui dit que quand on l'allume, il suffit pas de, si tu voulais, d'allumer une partie de la mèche et puis ça va s'étendre. Il faut vraiment allumer toute la mèche. C'est-à-dire, si on allume avec une allumette, il faut mettre la flamme de telle sorte qu'elle brûle toute la mèche, enfin toute la partie qui va effectivement brûler, pour que ce soit l'allumage, celui qui est allumé, et qu'il n'y ait pas une partie, si vous voulez, qui soit la conséquence de ce qu'on avait allumé, mais pas directement, on n'a pas directement allumé cette partie-là. Maintenant, la question qui se pose, que tout le monde pose, effectivement, c'est qu'est-ce que ça fait? Encore, quoi ce rappel ou cette mention-là de l'allumage de la menorah, pourquoi est-ce que c'est placé en tête de cette paracha de Baal Otra? A priori, ça s'intègre pas avec ce qui va suivre. Alors, bon, tout le monde connaît plus ou moins la réponse standard, c'est que, vous vous souvenez, on a vu dans Parshat Nassau, ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs, je crois que je n'ai pas fait cours, mais dans Parshat Nassau, on nous avait enseigné qu'à l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du Tac, donc, chaque chef de tribu a apporté un cadeau, en fait. Il a apporté des korbanot, enfin quelque chose au moment de cette inauguration au Mishkan. Et alors, il y avait eu un problème, si vous voulez, dans cette opération, en quelque sorte. C'est que Nachshon Aminadav, le prince de la tribu d'Yéhouda, qui a apporté son cadeau en premier, qu'est-ce qu'il a apporté comme cadeau? Il a apporté tout ce qu'on va pouvoir allumer par la suite, apporter par la suite. C'est-à-dire, il a apporté, dans les animaux, toutes les sortes d'animaux qu'on va amener, que ce soit des agneaux, que ce soit des biens, que ce soit des taureaux, etc. De l'or, de l'argent, de tout ce on va amener, pas seulement ce qui va sur l'autel, mais aussi ce qu'on peut donner à ce qu'on appelle l'Ekdesh, c'est-à-dire au fonctionnement du Mishkan. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, en approchant tout cela, c'est comme s'il annonçait ou il faisait en sorte que tout ce qu'on va apporter par la suite ne sera jamais que la suite de ce qu'il a apporté. Bon, c'est à la fois très très bien, mais d'un autre côté, c'est comme si on réduisait tout ce que les gens par la suite vont pouvoir apporter. Ben ce n'est plus, il n'y a plus de dimension d'originalité, ça n'est que de la copie de ce que lui il avait amené déjà, et quelque part c'est un peu ambigu en fait, cette façon d'apporter. Mais le grand problème, c'est qu'étant donné que lui il a apporté de tout, la question c'était le chef de la tribu qui va venir juste après lui, c'est-à-dire en fait, il se trouve que c'est la tribu d'Issachar, mais ça aurait été la même chose si c'était quelqu'un d'autre. Ben lui, il a un problème. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je peux apporter d'original, puisqu'il a déjà apporté de tout? Il est coincé. Alors, la solution, bah, il va apporter le double. Vous imaginez, la douzième, ça va faire du 2 puissance 12. D'accord, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Alors, il a, Issachar, enfin, le Nathanaël ben Tuar, il a eu une très bonne. Il a apporté exactement la même chose. Et du coup, ils vont tous apporter exactement la même chose. Mais du coup, c'est la même chose, mais donc ils apparaissent comme des suiveurs, quoi. On donne la même chose, mais on n'a pas inventé quelque chose. Alors, la grande idée, c'est que ça va commencer après, tout le monde va prendre ça comme modèle. Il a apporté tout ce qu'il a appelé, mais quand vous apportez quelque chose, on revient sur cette théorie des cadeaux dont on a déjà parlé. Quand vous apportez un cadeau, même si vous apportez le même cadeau que la voisine, vous l'apportez avec votre personnalité. C'est vous qui l'apportez. Donc, si vous voulez, ce cadeau, il a une autre dimension qui vient de ce qu'il vient de vous. Il y a quelque chose de vous dans le fait d'apporter le même objet que la voisine, mais c'est vous qui l'amenez. Donc, vous l'amenez avec votre personnalité, avec. Actuellement, vous allez faire un petit changement dans l'emballage. L'autre, il a amené un emballage carton. Vous allez amener un emballage en brique ou en paille ou je ne sais pas quoi. Vous allez faire quelque chose de personnel. Le personnel, en l'occurrence, ici, ce que le prince de la tribu d'Issachar a fait, c'est que la tribu d'Issachar, elle est caractérisée par le fait que les gens de cette tribu-là, ils se consacrent essentiellement à l'étude. Eux, c'est la tribu de l'étude, si on peut parler comme ça. Indépendamment de la tâche des Lévi'im qui sont en charge d'étudier pour enseigner, etc. Mais eux, c'est celui qui étudie, ici qui étudie. Par conséquent, tout ce qu'il a amené doit être reçu avec cette caractéristique, avec cet emballage, si vous voulez, avec cet accompagnement qui est, tout ça, c'est dit en termes d'études, c'est-à-dire que toute la symbolique qu'on va attacher à tous les korbanot, etc., sera toujours à interpréter, ça va toujours être interprété en termes d'études. En termes de la valeur de l'étude de la Torah. Ce qui fait que chaque tribu par la suite va amener en fonction de ce que sa spécificité. Alors, rétroactivement, on va pouvoir dire que ce que Nachshon, la tribu de Yehuda, qui est la tribu royale, a apporté, il l'a amené, tout ce qu'il a amené, c'est en termes de la royauté. C'est comme si, voilà, c'est les cadeaux, tous les cadeaux étaient des cadeaux royaux, qui parlaient le langage de la royauté. Ils représentaient toutes sortes de facettes de la royauté, comme c'est chez Issachar, représentait toutes les facettes de la Torah, de l'étude de la Torah. Et ainsi de suite pour toutes les tribus. Le Midrash, Midrash Rabbah, il ramène sur les premières tribus, il nous dit à chaque fois, cette tribu-là, elle a porté dans cette optique-là, avec cette. Etc. Et la vérité, c'est que le Midrash, il n'est pas allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est seulement que on n'a pas le manuscrit complet, etc. Le Midrash, il s'est dit, voilà, je t'en donne quelques exemples, le reste, tu feras le travail tout seul. En tout cas, c'est ça, c'est le côté génial, si vous voulez, de cette approche de celui qui vient en deuxième position et qui est en train de dire quelque chose ou exprimer quelque chose de spécifique, alors que celui qui est passé devant lui, qui a Il semble avoir tout apporté. Donc, d'avoir compris que la kavana, que l'intention et donc l'habillage de ce qu'il a amené, le sens qu'il faut le donner à toute la chose, est complètement différent. Alors, c'est intéressant parce que ça veut vraiment dire que quand vous apportez un korban, titre personnel, quand vous faites un cadeau à Hekdesh, au fonctionnement du Mishkan, il faut le penser en termes de votre personnalité. Il ne faut pas apporter quelque chose, ben, j'apporte parce que l'autre a apporté, alors j'apporte la même chose, ou, etc. Non, apporte en exprimant par là ta personnalité. C'est vrai pour toute la avoda. En réalité, si vous voulez, même si nous avons tous les mêmes mitzvot, enfin, disons gros, bon, néanmoins, la mitzvah, elle s'adresse à nous, et donc elle veut, cette mitzvah, elle doit être faite par moi, avec ce que je suis, et pas de façon anonyme, si vous voulez, simplement. C'est vrai qu'on peut s'acquitter de la mitzvah si on simplement quoi, mais on le fait sans réflexion profonde, etc. Mais l'idéal, c'est justement de faire la mitzvah justement avec sa personnalité. Toutes les tribus ont apporté donc des cadeaux à cette inauguration. Et tout à coup, Aaron, qui n'est pas un chef de tribu, mais qui est un chef de la tribu des Kohanim, quoi, qui n'est pas une tribu en soi, mais qui est aussi Aaron, il s'est aperçu, voilà, ils ont tous apporté et chacun a apporté dans son jour, etc. Lui, il n'a pas eu l'occasion d'apporter Aaron. Et donc, évidemment, il était triste de ne pas avoir apporté sa contribution spécifique à l'inauguration. Et alors, beaucoup de commentateurs, pas tous, mais beaucoup de commentateurs disent que ce texte-là qu'on a, qui est le premier paragraphe de Parshat Baalotra, qui parle de l'allumage des Nérotes, il est placé au début de Baalotra, si vous voulez, à la fin du Parshat Nassau, où on avait l'énumération de tout ce que chacun a donné. C'est placé ici parce que ça vient en consolation pour Aaron, en lui disant, voilà, mais toi, ta mitzvah, c'est d'allumer les Nérotes. Et ta mitzvah est plus grande que la leur. Alors, juste pour bien rappeler les choses, dans le Parchat Nassau, on n'a pas écrit Nachshon Menaminadav, la tribu de Yehuda, il a apporté son korban, et tous les autres ont apporté leur korban, ils ont apporté la même chose. La Torah, elle a pris la peine de redire à chaque fois, pour chaque tribu, les mêmes versets. Donc, au lieu de l'écrire une fois et en disant, etc., quoi, et tous les autres ont fait la même chose, c'est répété. C'était d'ailleurs ce qui a fait de la paracha de Nassau la plus longue paracha de la Torah. Et d'ailleurs, bon, c'est presque anecdotique, mais c'est la plus longue paracha de la Torah. Le Midrash Rabbah sur la paracha de Nassau, c'est le plus long Midrash Rabbah de toute la Torah. Le Zohar sur la Parshat Nassau est le plus long Zohar sur les Parshiot. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment en quoi l'allumage des Nérotes est plus grand, une plus grande mitzvah que les corbanotes. Pour les korbanot, c'est chaque fois c'est une mitzvah. Pourquoi la sienne serait-elle plus grande? Pourquoi l'allumage des nérotes est plus grand? C'est quoi, quel est le critère qui permettrait de dire que cette mitzvah est plus grande que cette autre mitzvah? Bon, on n'en sait rien. Mais c'est pas en termes de grandeur de la mitzvah. Mais on explique que c'est, en fait, ce qu'Hachem lui a dit, c'est que ta mitzvah à toi, elle va durer beaucoup plus longtemps que leur mitzvah à eux. Et là aussi, c'est encore compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, comme on a dit, tous les korbanot qui vont être amenés seront la suite de ce que chacun des princes a apporté pour sa tribu. Mais quand, malheureusement, il n'y avait plus de Betamigdash, il n'y a plus non plus de korbanot. Mais ce n'est pas une solution. Parce que quand il n'y a plus de Betamigdash, il n'y a plus non plus d'allumage des Nérotes. Donc, en quoi est-ce que sa mitzvah, lui, serait plus longue? Alors, là-dessus, on explique que, étant donné que il y a quelque chose qui va durer autant que le clan d'Israël, et qui est l'allumage des Nérotes de Hanouka, et que la raison pour laquelle on allume des Nérotes à Hanouka, c'est bien entendu lié à l'allumage de la menorah, puisque c'est parce que on n'a trouvé qu'une seule fiole de l'huile nécessaire pour allumer la menorah, et qu'il y a eu ce miracle, et qu'on allume les Nérotes de Hanouka, pendant les 8 jours de Hanouka, que donc dans le galout, on continue l'allumage, non plus de la menorah, mais de quelque chose qui est allumé à cause de l'allumage de la menorah. Donc, quelque part, l'allumage de Hanouka est une prolongation de l'allumage de la menorah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit? Bonsoir. Donc, cet allumage de Hanouka est la prolongation, mais ça veut dire la chose suivante. Qui est-ce qui allume les Nérodes de Hanouka? C'est tout le monde. Toutes les maisons, toute maison juive, en fait, doit allumer une bougie de Hanouka, une lumière de Hanouka. Alors, c'est en général le maître de maison qui allume, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et dans chaque maison, on doit allumer un air de Hanouka. Donc, ça veut dire que l'allumage dans chaque maison est dérivé de l'allumage dans le Betamigdash. Donc, quand on allume dans chaque maison, ça, quelque part, ça nous dit que la maison, elle est d'une certaine manière le Betamigdash. La maison de chacun est d'une certaine manière le Beth Amikdash, puisque c'est le lieu de l'allumage. Et ça dit aussi que le travail qui était fait par le Kohen Gadol, c'était le Kohen Gadol qui allumait ce nerf-là, il est maintenant fait par chacun dans sa maison. C'est-à-dire quelque part, une maison dans la version. Dans la version d'aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Celui qui allume dans sa maison, ben il joue le rôle du Kohen Gadol qui allumait. Donc, si vous voulez, la version post-Beth Amikdash, c'est une version dans laquelle on a remplacé Kohen Gadol et Beth Amikdash par la maison de chacun avec le propriétaire ou l'habitant de cette maison. Et du coup, alors, ça veut dire énormément sur la façon dont on doit organiser sa maison, la façon dont on doit se penser dans sa maison. Bien sûr qu'on n'a pas les chumrot du Kohen Gadol, etc. Mais l'idée, l'importance de ce que c'est, de ce que c'était que l'allumage. Vous voyez, l'allumage, on pourrait dire, c'est très simple. Tu prends une bougie et tu mets le feu à la mèche. Non, mais justement, ça fait, il y a des psoukim ici et il y a d'autres dans la halakha qui disent donc, comment on doit allumer? Donc, ça veut dire que le travail en question est fait par chaque individu dans sa maison, qui doit être fait avec le souci de faire quelque chose d'équivalent, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, mais d'équivalent au travail du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, au Mishkan, et puis ensuite dans le Beth Amikdash. Alors, bien entendu, la lumière de la menorah, elle était composée, si vous voulez, de la lumière des sept branches, mais il y avait une branche particulière, c'est la centrale, si vous voulez. Les autres étaient dirigées vers le centre, étaient au service d'eux. C'est-à-dire, là-bas, il y avait un allumage, et dans l'allumage lui-même, c'était au service de la Torah, la lumière centrale. Cette représente la Torah, les autres représentent la science, etc. Mais c'est au service de la Torah. Et donc, celui qui allume, bien sûr, on allume à Hanouka, mais en fait, c'est une question de. Si tu es le Kohen Gadol, tu es le Kohen Gadol toute l'année. Quand on allumait dans le Beth Amikdash, on allumait tous les soirs, on allumait. Ça brûlait dans la soirée, dans la nuit, mais le reste de la journée, ça brûlait pas. Il était néanmoins Kohen Gadol pour d'autres choses aussi. Donc, là aussi, il y a un moment dans l'année, on a remplacé un moment dans la journée par un moment dans l'année. Bon, le soir, bien sûr, on allumait le soir. Est-ce que c'est parce que le soir, c'est plus visible, mais dans le Beth Amikdash, c'est pas vraiment le cas parce que la lumière, elle était artificielle, c'est-à-dire c'est la lumière d'Hachem dans le Beth Amikdash. Et donc, il y avait un nerf tamid, mais c'est pas, c'est le nerf tamid, c'était, il y avait de la lumière en permanence. Midrash dit, quand je vois quoi dit au Bnei Israël, je vous demande d'allumer, mais pas du tout parce que j'ai besoin d'allumer. Simplement pour que vous ayez l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi. Voilà, donc ce lien-là qui est fait avec la mitzvah d'allumage de dit à Aaron ici, c'est très très important parce que c'est quelque chose dont on connaît, d'après les Mefarshim, on connaît la traduction dans le langage d'aujourd'hui. C'est traduire, expliquer ce travail, bon, donner les éléments. Chacun de vous peut réfléchir à la façon, effectivement, dont il s'agit de traduire ce qui était dit concernant cet allumage dans le langage d'aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, la situation où on n'a pas de Beth Amikdash, et où du coup, comme pour la plupart des choses qui étaient faites par le Kohen Gadol, pourtant on avait le Beth Amikdash, et qui maintenant doivent être faites par chacun. Par exemple, Yom Kippour. À Kippour, le Kohen Gadol, il courait toute la journée. Il faisait un énorme travail pour tout le monde. C'était lui qui travaillait à Kippour. Aujourd'hui, personne ne fait le travail pour nous, Kippour. Si je ne le fais pas, personne ne le fait pour moi. Donc, ici aussi, l'allumage de la lumière de la menorah était fait par le Kohen Gadol pour tout le monde. Hanouka, si j'allume pas dans ma maison, personne n'allumera pour moi. Donc, il y a une extension, enfin, la responsabilité est répartie sur tout le monde. De ce point de vue-là, la destruction du Beth Amikdash, elle a obligé les Bnei Israël à se prendre en charge. Il n'y a plus personne qui fait le travail pour les autres. Voilà, donc c'est comme ça que commence cette paracha de Baalotra. Ensuite, la Torah dit que, on répète quelque chose qu'on a déjà vu aussi dans la paracha précédente, avec plus de détails, c'est la situation des Levim. Alors, les psukim ici disent que Moshe Rabbeinu va devoir, en fait, purifier et en quelque sorte consacrer les Levim au service d'Hachem. Les Levim, ici on nous rappelle que justement, les Levim, pourquoi est-ce qu'il faut les purifier, etc. On va le voir dans le détail, mais le problème c'est que les Levim sont des remplaçants. Vous vous souvenez, c'était redit effectivement aussi la semaine dernière, les Levim sont les remplaçants des Prorotes. Quand Yaakov Avinu a acheté la Prora d'Essav, il a acheté la Prora parce que la Prora, c'était ce qui donnait l'obligation, mais du coup aussi le droit, de faire la Avoda pour Hachem, d'être en charge de la Avoda du service d'Hachem. Et depuis ce moment-là, les premiers-nés sont en charge de faire la avoda. C'est eux les prêtres. Il y a déjà, même dans le rôle du premier-né, même à l'échelle de Yaakov, de la même manière que les Kohanim par la suite vont être, disons, astreints, ils vont avoir comme travail d'étudier la Torah et de l'enseigner. Yaakov Avinu aussi, il étudie la Torah, se consacre à l'étude de la Torah, plus que les korbanot, etc. On ne voit pas de Yaakov Avinu qu'il était marbé des korbanot, etc. Mais l'étude de la Torah, oui. Les prorotes sont donc en charge. L'intéressant dans les prorotes, c'est que vous avez donc des gens qui se consacrent à l'étude et au service d'Hachem dans chaque famille. Si c'est pas cette génération, c'est génération d'après ou si c'est pas lui, c'est son cousin, etc. C'est des coanimes, si vous voulez, il y en a dans toutes les familles. Ça, c'est génial parce que tout le monde est partie prenante à ce. Tout le monde est vraiment directement impliqué dans ce travail. Seulement, il y a une halakha qui dit que si quelqu'un a pratiqué l'idolâtrie, il n'a plus le droit de fonctionner comme Cohen, si vous voulez, pour Hachem. Et donc, comme les premiers-nés ont participé au veau d'or, ils se sont disqualifiés. Et du coup, il n'y a plus personne qui soit en charge de la avoda. Alors Hachem dit, il a déjà dit ça à Moshe Rabbeinu, il a dit, je prends les Levim, je vais les prendre, je prends les Levim comme remplaçant des Bechorot. On va les remplacer. On va remplacer. Et donc c'est la deuxième équipe, quoi. Et c'est les Levim qui deviennent les remplaçants. La tribu de Lévi. Et on a vu dans la paracha dernière que, la paracha de qu'il y avait 22 000 Levim et il y avait un peu plus de 173. Bechorot en plus des 22 000. Ce qui fait qu'on n'a pas trop, il n'y avait pas un Lévi pour remplacer chacun des Bechorot. Donc la Torah, elle a donné une procédure de rachat, en quelque sorte. On va donner au Lévi de l'argent pour les 273 Bechorot que pour le travail, eux vont devoir faire le travail supplémentaire, puisque avant ils étaient 273 pour le faire, et maintenant il y en a 273 de moins. Alors on va donner de l'argent pour ça. Bon, Hachem a dit, moi je prends les Levim. Et maintenant il donne un ordre à Moshe Rabbeinu, il lui dit, prends les Levim. Vous voyez le mot dans le passouk Vav, Tach et Alvim, Mitor ben Israël. Prends les Levim. Comment on prend les Levim? Tu les prends sous le dos, sous le bras? Prendre dans la Torah ici et à bien d'autres endroits, ça veut dire prendre par la persuasion. Dans la chambre de la Torah, on dit un homme prend une femme, Yikar Ish Isha. Il la prend pas sous le bras. Il la prend par la persuasion. Et il faut qu'elle soit d'accord de jouer le rôle de l'épouse pour ce bonhomme-là. C'est toujours un peu paradoxal dans la mesure où elle n'a pas d'obligation de se marier. Donc, il faut arriver à la convaincre, quoi. Elle pourrait dire non, moi je suis pas intéressé. Pas seulement je suis pas intéressé parce que là, mais je suis peut-être pas du tout intéressé à jouer ce rôle-là. Mais là, pas de mitzvah, c'est pas obligé. Donc il faut la persuader. On peut pas marier une femme sans son consentement. Et donc, prends les Levim. Là, c'est pas tellement évident qu'on leur a demandé leur consentement, mais bon, tu vas les prendre. Et Rachid dit que là, on est obligé d'expliquer que le Kach et Alvim ici, je me trompe pas dans le passouk ici, c'est pas là. Bedvarim. faut les prendre avec des paroles. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'on va leur dire? Leur dire, Ashrechem, Shetiskuli Yot, Shamashim Lamakom. Soyez heureux, heureux êtes-vous, comme on dit, d'avoir le mérite de devenir les serviteurs d'Hachem. Tous les bnei Israël servent Hachem, mais eux en particulier sont sur la brèche, si vous voulez. Donc c'est ça qu'il faut leur dire. Donc il y a un travail de persuasion pour arriver à les convaincre. Il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de récit d'un Lévi qui n'aurait pas voulu. Bon, non, finalement, non. Pas intéressé. C'est une acceptation globale de l'ensemble des Lévim, justement. Et donc, ça va faire glisser tout le problème, c'est qu'au lieu qu'on ait des individus sont pas obligatoirement liés les uns aux autres. Il va y avoir des gens qui vont servir Hachem, que ce soit l'élvim en général ou la sous-tribu des Kohanim, qui sont des gens en famille, quoi, quelque part, même si une famille est un peu élargie, mais ils sont en famille et ça va donner déviation de secte, quoi. C'est un état dans l'état, les Kohanim. Un peuple pour soi, les Kohanim, dit la Gemara. Tiharta otam. Et tu les purifieras. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour les purifier? Azealehem mechatat, tu vas les asperger avec, vous voyez, l'expression c'est mechatat. Littéralement, cette expression mechatat, en français ça se dit les eaux lustrales, si je ne me trompe pas. Comme on ne rencontre pas ça tous les jours, ce n'est pas très explicite, mais c'était de l'eau spécialement préparée. Et ça a à voir avec, évidemment, la para adouma. Ça a à voir avec la vache rousse. Parce que de quoi est-ce qu'on doit les purifier? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'il faut les purifier? Pourquoi? Parce que Mipnei Tmei Metim Shebaem. Parce que parmi eux, parmi les Levi'im, il y a des gens qui se sont rendus impurs par contact avec un mort. Simplement, il y a eu des morts dans leur famille, par exemple, ils ont dû les enterrer. Donc, ils sont entrés en contact avec un mort et la touma, l'impureté, bon, c'est quelque chose d'assez abstrait, d'assez difficile à comprendre, mais ça a à voir avec la mort. Le summum de l'impureté, c'est la mort. La mort, c'est figé, c'est. Il y a plus de vie, pour dire une chose assez évidente. Et justement, c'est en cela que ça nous éloigne de certaines choses, parce que la Torah, elle est vivante. Et elle veut la vie. Et tout ce qui éloigne de la vie, c'est de l'ordre de l'impureté. C'est seulement après le meraglim que l'on meurt comme ça. Bien sûr, vraiment. Bien sûr. Bon? Ben oui, ils ne pouvaient pas prendre l'avion pour les enterrer ailleurs. Oui. Oui, alors les gens vont mourir. Et puis il faudra les enterrer. Il faut les enterrer. A dit ceux qui étaient. Ceux-là, ils étaient adoucis, mais ils ont pas eu le temps. Il se trouve que ceux-là, ils étaient obligés. Les autres, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se purifier, etc. Mais on parle de ceux-là parce que ceux-là, on est sûr qu'eux, ils étaient pas. Ils ne pouvaient pas se purifier pour le Coran Pessah. Donc, il faut les purifier à cause des Tmé Métim qu'il y a parmi eux, comme dit Rachid. Alors, tu vas appliquer la procédure. Quand on devenait impur par contact avec un mort, pour se sortir de cet état-là, c'était pas une mince affaire en réalité. Ça prenait toute une semaine. Et pendant cette semaine, le troisième jour et le septième jour, on aspergeait le candidat à la pureté, quoi. C'est des gouttelettes qu'on envoyait de cette eau-là, eau lustrale. Et de telle sorte, c'était ça la purification. Et après, il y avait encore purification standard, mikvé, etc. Mais cette procédure-là, elle existe spécifiquement pour sortir de la toumatmet, sortir de l'impureté contractée par quelqu'un qui était en contact avec la mort. Et donc, comme il y a parmi eux des gens qui ont été en contact avec le mort, on va tous les purifier. Ça, c'est l'ordre que Moshe Rabbeinu a reçu. Mais avant de les purifier, on dit aussi, Ve'eviru tahar al kol besaram, on va passer une lame sur tout leur corps, c'est-à-dire on va les raser, on va raser complètement tout le corps. Et puis on va purifier aussi les vêtements. Le chipsou, ils vont laver les vêtements, ça veut dire qu'ils vont mettre les vêtements dans le mikvé et on va les purifier. Alors, pour remplacer les premiers-nés, donc, bon, ils doivent se purifier, cette procédure-là qui est décrite. Et ensuite, ils vont aussi devoir apporter des korbanot, dans le verset Traite, va amener un taureau. Et une mincha, etc. Et puis, du coup, tu vas approcher les Lévi'im autour du Mishkan. Lifnei Oed Moed, vikalta et kol adat ben Israël, et tu vas rassembler autour, tout le clan d'Israël va se rassembler à la cérémonie, si vous voulez, d'intronisation, de purification et du coup d'intronisation des Lévi'im comme tels. Les Bnei Israël vont, a priori, vont imposer les mains sur les Lévi'im. Ils vont poser les mains sur les Lévi'im. Et puis ensuite, quand on pose les mains, quelque part, c'était quelque chose qu'on faisait avec tous les korbanot. Quand quelqu'un apportait un korban, il s'appuyait sur la tête de l'animal, à la limite, il se soulevait en s'appuyant sur la tête de l'animal. C'est une façon de charger l'animal pour de me ressembler. Il va me représenter quelque part. Et là, si les Bnei Israël se sont appuyés, ils ont fait smicha, ils ont mis les mains sur les Levim pour que les Levim les représentent. Parce que on veut pas qu'il y ait des gens spécialisés dans le service d'Hachem, mais qui soient déconnectés du reste du peuple. Ils sont les envoyés, les représentants de tout le clan Israël. Et c'est à ce moment-là que ça se fait, quoi. Ensuite, ça s'est transmis de génération en génération. Mais à un moment donné, il a bien fallu les charger de cette représentation. Alors, la question qu'on pose en général, c'est pourquoi est-ce qu'il fallait les raser? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un poil. Cette histoire des poils, quand on réfléchit, on est amené à parler du poilu par excellence. Le poilu par excellence, c'est Ésav. Ésav, dont on dit, la Torah dit, que quand il est né, il était couvert de poils, comme un châle de laine, ou comme ça. Et en quoi est-ce que c'est problématique, en fait? Pourquoi est-ce qu'on oppose Ésav, qui est largement poilu, à Yaakov, qui est complètement glabre, il est complètement lisse? Justement, parce que quand il y a des poils, alors les poils, ils attrapent tout, quoi. Tout peut s'accrocher aux poils. Alors que quand c'est lisse, ben, ça glisse. Donc, quelque part, même sans le vouloir, les poils vous permettent enfin, vous permettent pas obligatoirement, vous n'avez peut-être pas envie, mais elles font en sorte que vous allez ramasser toutes sortes de choses que, éventuellement, vous n'avez même pas prévu de ramasser. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les levim soient complètement lisses au moment de. Ils vont pas devoir se raser tous les jours, de la tête aux pieds. Mais au moment de leur intronisation, dans le moment où ils vont représenter, il faut qu'il n'y ait rien d'autre que ce qu'on y met volontairement. Mais s'il y a des poils, il y a des choses qui sont là involontairement. Et on veut que les Levim représentent uniquement eux-mêmes et les Bnei Israël qui ont mis et rien d'autre. Donc, il fallait les raser complètement. Et là, on connaît le Midrash qui dit que parmi les Kohanim, parmi les Levim, pardon, dans la tribu des Levim, il y avait un certain Korach. Et quand Korach est rentré chez lui après avoir passé ce processus-là, sa femme, elle lui a dit: T'as bonne mine. Alors, il a dit, mais il a dit, tu comprends pas que Moshe Rabbeinu, il fait ça seulement pour t'humilier? Il dit, mais il se l'est fait à lui-même. Moshe aussi il était Lévi. Donc lui aussi, il a dû procéder à toute cette opération. Tous les poils. Tout le monde. Ouais. Enlever. Alors, elle lui a dit, il est même prêt à se le faire à lui-même. L'essentiel, c'est qu'il te le fasse à toi. C'est quand vous avez une femme qui vous aide à progresser dans la vie, quoi. Femme trop rare. C'était ça. C'est à ce moment-là qu'elle lui a dit ça. Alors, les Levim vont être mis d'une certaine manière au service des Kohanim. Bon, les Kohanim sont sur la partie pointue, en quelque sorte, et ils ont besoin d'assistants, et les assistants, c'est les Levim. Alors, on nous dit à partir de quel âge fonctionne l'Elvim. En fait, on avait vu par ailleurs que l'Elvim, en vérité, le temps de travail d'Elvim, c'est entre 30 et 50. Entre 30 ans et 50 ans. Mais là, Moshe va les prendre à 25 ans et ils vont avoir 5 ans d'apprentissage. Pendant ces 5 ans d'apprentissage, s'ils ont envie, ils peuvent aller servir. Après, quand ils ont 30 ans, ils sont obligés, ils sont mobilisés. Là, c'est un apprentissage, et si tu veux, tu peux te familiariser avec le travail. Il va y avoir deux grandes, curieusement, il y a plein de travail, mais il y a deux grandes familles parmi les Lévites qui sont distinguées par leur fonction. Il y a des Lévites qui sont en charge d'ouvrir et de fermer les portes du Beth Amikdash ou du Mishkan. Parce que, comme vous savez, le Beth Amikdash, il est fermé la nuit. Donc, le matin, il faut ouvrir les portes et le soir, il faut fermer les portes. Alors, il y avait les Lévites qui étaient des Shoharim, c'est des gens qui sont en charge des portes, des portiers. Et puis, l'autre moitié, je ne sais pas si c'est moitié exactement, mais l'autre partie, ce sont des meshorim, c'est-à-dire c'est ceux qui chantaient. Parce qu'avec les korbanot, il y avait de la musique, on va voir, il y avait aussi les trompettes, la fameuse trompette en argent dont on va parler plus loin. Mais il y avait les chants. Et les chanteurs, c'était les Lévites. Donc, c'est intéressant parce que les deux mots sont proches. Shoharim et Meshoharim, c'est très proche. Et on n'avait pas le droit. Si quelqu'un faisait partie des portiers, il n'avait pas le droit d'aller chanter et vice-versa. Pardon? Donc, j'avais prononcé. Ou bien. Le chef d'Elvim, le Sgan d'Elvim, qui disait, toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça. Ou peut-être même Aaron, chef des Kohanim, peut-être. Ah, c'est possible qu'il y avait, comme il y avait des choses qui brûlaient encore, c'est possible qu'il y avait des gens qui étaient préposés à surveiller la combustion des corbanotes qu'on avait amenés, qui c'était des carcasses entières, etc. Donc, ou des gros morceaux de viande plutôt, et ça n'avait pas eu le temps de brûler, donc ça brûlait pendant toute la nuit. Donc j'imagine qu'il y avait aussi des gens qui étaient là. C'est le back-office, parce que les Kohanim, ils vont ensuite être organisés en 24 groupes. C'est pour ça que je vous dis toujours que les Kohanim travaillent 15 jours par an. Mais bien sûr, il y a le back-office aussi, permanence. Et puis le reste du temps, ils doivent étudier et enseigner. C'est donc l'essentiel quand même de leur activité. Et ensuite, la Torah, elle nous raconte que quand on a érigé le Mishkan, vous vous souvenez, le Mishkan, on l'a construit à partir de, en gros, à partir de Sukkot, et il était terminé, tout le travail était terminé le 25 Kislev. Mais Hachem a décidé que l'inauguration aurait lieu seulement le premier Nissan. Et du coup, Hachem était en dette par rapport à la date du 25 Kislev. Et comme vous savez, il a payé sa dette avec Hanouka, qui était le 25 Kislev. C'était aussi une inauguration. Alors, quand on a érigé le Mishkan, Au-dessus du Mishkan, il y avait une nuée. Une nuée de protection. Mais cette nuée-là, elle était immobile, évidemment. Et il y avait des moments où cette nuée se mettait en marche. Alors, les Bnei Israël savaient qu'eux aussi devaient se mettre en marche. Et puis, quand cette nuée s'arrêtait, les Bnei Israël savaient qu'ils devaient s'arrêter et camper, c'est-à-dire qu'il fallait de nouveau remonter le Mishkan, remonter toutes les tentes, etc., de tout le monde, et on s'installait. Mais le très surprenant, si vous voulez, c'est que les Bnei Israël n'avaient aucune idée de combien de temps ils allaient rester là, combien de temps ils allaient voyager. Alors, initialement, ça n'aurait pas été un grand problème parce que combien de temps devait durer le voyage initialement? 11 jours. Entre la sortie d'Égypte et Eretz Israël, ça devait durer 11 jours. Et ça a mal tourné, les explorateurs, etc. Et on en a pris pour 40 ans. Alors, dans les 40 ans, il y a eu des périodes où les Bnei Israël sont restés à certains endroits une année, 2 ans, d'autres périodes où ils sont restés quelques jours. Ils n'avaient aucune idée, quand ils arrivaient quelque part, si on s'installe pour des jours, des semaines, des mois ou des années. Ils étaient vraiment dans la main d'Hachem. Ils ne pouvaient pas. Alors, c'était une vie tout à fait particulière. Ils mangeaient de la manne, l'eau ils l'avaient du puits de Myriam, et ils avaient des nuées pour les protéger, et ils obéissaient à une nuée qui se déplaçait. Et quand on avait vu que la nuée voulait se déplacer, alors il y avait des trompettes d'argent qui entraient en jeu, et bon, il fallait les fabriquer d'abord, et donc c'est ce que Moshe Rabbeinu lui a reçu l'ordre à ce moment-là. Dans le chapitre 10, le premier passouk, Hachem a parlé à Moshe, il lui a dit, fais pour toi 2 trompettes en argent martelé, c'est toujours la même histoire, il n'y a pas de soudure, etc., c'est martelé. Elles seront à toi pour la convocation de l'assemblée, pour faire voyager les camps. Alors, il y a les sonneries spécifiques. Note prolongée, ça veut dire tout le monde est convoqué au Mishkan, au Mishkan. Si on sonne avec une seule trompette, une note prolongée, c'est seulement les chefs du clan qui viendront prendre des messages chez Moshe Rabbeinu. Quand les notes seront courtes, alors on se mettra en marche. Ça commence toujours de la même manière. C'est les gens qui sont à l'est. Vous vous souvenez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, vous savez peut-être que le Mishkan était au milieu du camp et dans les 4 directions cardinales, il y avait 4 groupes de 3 tribus à chaque fois. Et la tribu de Yehuda était à l'est. Elle est en tête, si vous voulez, elle est à l'est. Et ensuite, on tourne dans les 4 directions. Et quand on se mettait en marche, c'est aussi, ça commençait par la tribu de, enfin, le groupe des tribus de l'est, c'est-à-dire Yehuda qui marchait en tête. Ensuite, il y avait la Reuven. Et ensuite, au milieu, il y avait le Mishkan, quand on voyageait. Et ensuite, il y avait 2 groupes de 2 fois 3 tribus. La dernière était le groupe dirigé par la tribu de Dan. Bon, alors, il y avait un signal qui disait, les gens du groupe de l'Est, là, se mettent en marche. Évidemment, s'il y avait ce signal-là, vous avez vu que ça allait bouger, mais il fallait faire les valises, hein. fallait tout démonter, démonter le Mishkan, passer dans des chariots qui vont être tirés par des bêtes, par des bœufs. Et bon, c'est transporté, certaines choses sont transportées à dos d'homme, partie de l'Aaron HaKodesh, par exemple, il n'était pas mis sur un chariot, il était porté à dos d'homme. En fait, bon, évidemment, ce n'est pas les hommes qui portaient le Aaron, mais le Aaron qui les portait, mais bon, c'était quand même sur les épaules des gens. Et donc, voilà, il fabriquera ces trompettes d'argent. Elles serviront. Elles serviront aussi, d'ailleurs, quand vous partirez en guerre, vous sonnerez, effectivement. Ce sera une façon de vous rappeler à Hachem, en quelque sorte. Et le texte, il dit, quand vous sonnerez, vous serez évoqué devant Hachem, votre Dieu, et vous serez délivré de vos ennemis. Bon, ça veut dire que, bon, si on fait comme ça, là, il n'y a pas de guerre où il faudra se battre. Les ennemis vont être dispersés. Et puis, vous sonnerez aussi au moment des fêtes. Et on nous dit là, la première fois, au verset Yudalef, au verset 11, la cinquième montée. Voilà, on est dans la deuxième mois, le 20 du mois de Iyar. La nuée, elle a commencé à bouger. Elle est au-dessus du Mishkan, elle va bouger. Les Bnei Israël vont sortir du désert du Sinaï et entrer dans un autre désert qui s'appelle le désert de Paran. Alors, on refait le récit de la façon dont ils voyageaient, qu'ils voyageaient en tête, que je vous ai dit. Et puis, il y a à la sixième montée, c'est-à-dire au passouk Lamed Hey, il y a quelque chose de spécial, vous le savez probablement. Vous avez dans le Chumash, vous avez au début de ce verset-là, un noun à l'envers. Et un peu plus bas, vous avez de nouveau un noun à l'envers. Et entre ces deux nouns, entre ces deux signes, parce que nous à l'envers, c'est pas une lettre, c'est la lettre, mais ce n'est pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que les versets, donc, Lamed Hey, 35 et 36, qui sont entre guillemets, quoi, les guillemets en question, c'est le noun à l'envers, là. Ces versets-là, ils ont un statut à part. Et on va apprendre de là que ces deux versets, 35 et 36, sont considérés comme formant un livre pour soi. C'est-à-dire que le livre de Bamidbar, en fait, c'est trois livres. Il y a une première partie jusqu'à ce verset 35 du chapitre 10. Un deuxième livre constitué de deux versets, 35, 36. Et un troisième livre qui va depuis le verset 37 jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. Donc, en réalité, on dit toujours qu'il y a Hamisha comme chez Torah. D'après ça, d'après la Gemara, il dit que c'est un livre pour soi. On avait la Torah, elle a sept livres. Bon, il y en a un qui est plus court que les autres, mais ouais, c'est un livre. Alors, c'est important de savoir que c'est une entité pour soi, parce que si on compte les lettres de ces psukim-là, si vous les comptez, vous verrez, il y en a 85. Et le chiffre 85, quand on l'écrit en hébreu, on l'écrit péhé, et péhé, c'est la bouche. Péhé, c'est la bouche. C'est ces psukim-là, c'est les psukim qu'on dit quand on sort la Torah. Voilà. Donc, a priori, c'est les psukim que Moshe Rabbeinu a dit. Et il a demandé à Hachem, en quelque sorte, dans le Aaron HaKodesh, donc tout le clan Israël voyageait. Alors, Moshe Rabbeinu disait, Kuma Hachem, lève-toi Hachem, et que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Et lorsque la nuée et l'arche donc s'arrêtaient. Alors il disait, réside sereinement, ô Hachem, parmi les myriades des milliers d'Israël. Alors ce chiffre-là, des myriades, ce chiffre des... Excusez-moi. Allez, c'est ça comme ça, je sais pas. J'espère que ça continue d'enregistrer, on est presque terminé. On est presque terminé. Donc, de là, on apprend aussi que si Chas de Shalom, il y a un incendie, on a l'obligation de sauver les Sifrei Torah. Et combien est-ce que, ben non seulement si on a une partie d'un Sefer Torah, à partir de combien de lettres est-ce que c'est un Sefer? Ben, on apprend de là. S'il y a 85 lettres, alors, évidemment, c'est pas évident d'avoir le temps de compter les lettres s'il y a un incendie. Mais bon, à vue de nez, quoi. S'il y a plus que 85 lettres, c'est un Sefer, donc il y a une mitzvah de le sauver. S'il y en a moins, en tout cas, si on a le choix entre deux, il faut sauver là où il y a plus de lettres, même si l'autre me tiendrait plus à cœur, mais donc ça, c'est ce livre-là, un livre pour soi finalement. Bon. Et ensuite, évidemment, après cela, vous avez le chapitre 11. Et ce chapitre 11, il est un peu surprenant quand même. Parce que ça va déboucher sur... C'est un chapitre, dans la traduction, il commence, le peuple chercha des sujets de récrimination. C'est-à-dire, ils avaient des problèmes, quoi. Il fallait trouver un prétexte pour se plaindre. Ok, alors ils se sont plaints, ils voulaient de la viande, etc. Vous connaissez cette histoire. Je voulais juste mentionner pour terminer au dernier chapitre, chapitre 12, Il y a cette situation un peu surprenante. Vatedaber Myriam ve'Aaron ve'Moshe alodot Aisha akushit asher lakach, Isha kushit lakach. Myriam et Aaron ont parlé au sujet de Moshe, ils ont parlé de Moshe, ils l'ont critiqué, au sujet de Aïcha Kouchit. Kouch, normalement, Kouch, c'était un grand royaume à côté de l'Égypte, c'est, je sais pas, l'Éthiopie ou un peu comme ça, ou le Soudan. Et donc, on dit que, bon, c'est un peu curieux parce que la femme qu'on connaît de Moshe, Tsipora, c'est une Moabite, c'est une Midianite. Et là, il aurait pris, donc, il aurait une femme couchite, Moshe Rabbeinu. Et bien sûr que, ils sont pas en train de, c'est pas du tout raciste, en fait. Ce qui se passe, c'est que Myriam, elle a cru comprendre, elle a compris que la femme de Moshe Rabbeinu, elle souffrait de ce que Moshe n'était jamais à la maison. Parce que après les Aseret HaDibrot, après le Sinaï, Hachem a dit à donner l'ordre à Moshe Rabbeinu qu'il a répercuté donc au peuple d'Israël. Voilà, maintenant vous pouvez retourner dans vos maisons, vous pouvez reprendre les relations conjugales, etc., que vous avez dû interrompre pour être en état de pureté au moment où Hachem leur a parlé pendant les Aseret HaDibrot. Mais à Moshe, il a dit, mais toi, tu restes avec moi. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il n'est pas rentré chez lui. Et il ne pouvait pas avoir des relations avec sa femme, puisque il pouvait à tout moment être appelé par Hachem. Donc lui, il devait tout le temps être disponible. Et du coup, Myriam, elle a compris que d'une remarque de Tzipora, ben disons si c'est Tzipora, en tout cas de cette femme-là, qu'elle n'était pas très heureuse à cause de Moshe. Et du coup, ils se sont mis à dire Aaron et elle. Et Myriam, ils ont dit, mais pourquoi il se conduit comme ça, Moshe? Nous aussi, on est prophètes et nous, on a des vies conjugales normales. Pourquoi est-ce que Moshe, il l'a fait souffrir? Alors bon, ils en ont pris plein la figure. Hachem les a vertement rappelés à l'ordre. Parce que Aaron, il a fait tout de suite tshuva. Et Myriam, elle n'a pas fait tshuva tout de suite. Aaron aussi, il aurait dû être puni, mais il a fait tshuva tout de suite. Bon, Rachid va aussi dire que c'est aussi elle qui a commencé à parler, parce que c'est elle en tant que femme qui a critiqué Moshe. Et Aaron a été d'accord. Et donc, elle a été frappée, comme c'est de la Shonara, elle a été frappée de Tsaraat, de cette espèce, cette impureté qu'on appelle la lèpre, mais c'est pas la lèpre, c'est un truc, une impureté qui se marque sur la peau. Mais ça rend impur et il faut un processus de purification, etc. Et mon cher Rabbeinu a prié pour elle. C'est là qu'il a fait cette prière la plus courte. Elna, donc le fan Allah. Hachem, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Et Hachem a dit, il a, normalement, ça devrait durer plus longtemps, mais elle va avoir une réduction de peine, si on peut parler comme ça. Et après 7 jours, ça sera bon. Et le peuple a attendu, a oublié qu'on a affaire à un peuple qui est en mouvement, mais ils ont attendu que Myriam puisse les rejoindre, puisqu'elle était Donc, quand on a cette impureté-là, on est chassé à l'extérieur du camp. Donc, elle n'aurait pas pu se déplacer avec le camp. Donc, elle aurait dû rattraper ou, je sais pas, rester en arrière et tout. Mais tout le monde a attendu Myriam. Dit que c'est le mérite de Myriam dont elle a attendu pour voir ce qu'allait arriver avec le bébé Moshe. Bon, ça lui a ouvert un mérite, en fait, qui a fait que tout le monde l'a attendu à ce moment-là. Voilà, il faut qu'on s'arrête.